Le passage que nous allons commenter se trouve dans le livre de Job, au chapitre 4. En voici la lecture. Éliphaz de Théman prit la parole et dit : Si on t'adresse ta parole, le supporteras-tu ? Mais qui pourrait garder le silence ? Vois, tu faisais la leçon à beaucoup d'autres. Tu rendais vigueur aux mains débiles. Tes propos redressaient l'homme qui chancelle, fortifiaient les genoux qui ploient. Et maintenant, ton tour venu, tu perds patience. Atteint toi-même, te voilà tout bouleversé. Ta piété ne t'inspire-t-elle pas confiance? Ta vie intègre n'est-elle pas ton assurance? Souviens-toi, quel est l'innocent qui a péri? Où donc a-t-on vu des justes exterminés? Je parle d'expérience. Ceux qui labourent l'iniquité et sèment le malheur les moissonnent. Sous la laine de Dieu, ils périssent. Au souffle de sa colère, ils sont anéantis. Les rugissements du lion, les cris du fauve, comme les crocs des lionceaux, sont brisés. Le lion périt faute de proie, et les petits de la lionne se dispersent. J'ai eu aussi une révélation furtive. Mon oreille en a perçu le murmure. À l'heure où les rêves agitent confusément l'esprit, quand une torpeur envahit les humains, un frisson d'épouvante me saisit et remplit tous mes os d'effroi. Un souffle glissa sur ma face, hérissa le poil de ma chair. Quelqu'un se dressa. Je ne reconnus pas son visage, mais l'image restait devant mes yeux. Un silence, puis une voix se fit entendre. Un mortel est-il juste devant Dieu? En face de son auteur, un homme serait-il pur? À ses serviteurs même, Dieu ne fait pas confiance, et il convainc ses anges d'égarement. Que dire des hôtes de ces maisons d'argile, posées elles-mêmes sur la poussière? On les écrase comme une mythe. Un jour suffit à les pulvériser, à jamais ils disparaissent car nul ne les ramène, leur piquet de tente est arraché et ils meurent dénués de sagesse. Donc ce passage se trouve au chapitre 4, c'est le chapitre 4 dans toute son intégralité du livre de Job. Alors ici, si je veux situer le contexte, Job était quelqu'un de très, chapitre 1, chapitre 2, quelqu'un de très riche, tout allait bien, et puis Satan, dans la cour céleste, met en quelque sorte Dieu au défi et lui dit, écoute, si Job est tellement intègre, on va lui envoyer des difficultés et tu verras bien si sa fidélité n'est pas intéressée. Et Dieu y consent, mais à condition que Satan ne touche pas à Job lui-même. Alors Job perd toutes ses richesses, ses enfants, etc. et il est en grande souffrance, et pendant 7 jours il ne dit pas un mot. Il est rejoint par ses amis, d'ailleurs 3 amis qui seront rejoints plus tard par un 4e, Elihu, et ces 4 amis donc restent avec lui. Il me semble, c'est au chapitre 2, il reste avec lui durant 7 jours et 7 nuits, et il ne parle pas. Puis au bout de 7 jours, Job se plaint, maudit son sort, et pour la première fois un des 3 amis va parler, et c'est le chapitre 4. Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est très important, c'est que Job, en tant que tel, n'a probablement pas existé. Nous avons ici comme un conte, donc une exagération. Et c'est important de le savoir, parce qu'autrement, on serait tenté de penser que Dieu est cruel. Parce que quel est Dieu qui autoriserait, même si ce n'est pas lui qui le fait, mais il autorise Satan à tuer vos enfants, 7 enfants qu'il perd, toutes ses richesses, et le voilà, et plus tard même, il sera atteint d'une maladie. Tout ça avec le consentement de Dieu, pour un simple défi. Alors il est bien évident que là nous avons tous les aspects d'un conte où tout est exagéré pour véhiculer une leçon. C'est important parce qu'il faut se débarrasser de cette idée que le livre de Job montre un Dieu cruel. Nous avons ici des éléments plantés, exagérés, pour bien faire passer la leçon. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas une base de vérité. Il y avait un personnage, je ne sais plus le nom, assez connu comme étant un sage qui avait connu des difficultés. Au Moyen-Orient, il y avait des histoires sur ce personnage, etc. Alors, il y a peut-être effectivement une base de vérité, mais nettement exagérée. Voilà. Alors, une autre précision, si on veut bien comprendre Job, parce que c'est un livre qui paraît difficile, parce que les 3 amis, vous en avez vu un aperçu dans ce discours, disent des choses, et notamment Elihu plus tard, le 4e, des choses qui paraissent très sensées, et Job paraît plutôt comme celui qui se révolte, etc. Et c'est lui qui à première vue, n'a pas le discours convenu. Et alors, si on n'a pas ce que je vais vous dire à l'esprit, on ne comprend pas le livre de Job. Parce qu'effectivement, C'est incompréhensible de voir des gens qui ont un discours tellement, qui paraît tellement juste, et puis après Dieu va les rabrouer à la fin du livre en leur disant que c'est Job qui a raison, à ne rien y comprendre. Sauf si on a présent à l'esprit, et on va l'avoir présent tout au long du chapitre 4, parce qu'au chapitre 4 on va voir que ce qu'il dit paraît sensé, Eliphaz, mais avec ce que, si on a présent à l'esprit que Dieu va le désavouer à la fin du livre, eh bien, il va falloir avoir présent à l'esprit ce que je vais vous dire, autrement on ne comprend pas. Les amis de Job ont des discours très de sages, si vous voulez, la sagesse prime sur le cœur, c'est-à-dire que c'est la tête qui parle et non le cœur. Et ils ont un discours dont l'intelligence et la raison semblent bonnes, mais Job, lui, parle avec ses tripes et son cœur, et c'est ça que Dieu agrée. Si vous voulez, pensons à Jésus-Christ, quel est le centre de sa vie? C'est un personnage très sage, mais sa sagesse s'est manifestée à travers justement ce sens de passion. Le mot passion évoque le cœur, qui va trouver son apothéose dans la croix, et comme le dit Paul, il n'y a rien de moins sage que la croix, c'est une folie. Donc n'oublions pas ce Dieu qui préfère le cœur à la tête. Alors, maintenant qu'on a présent ça à l'esprit, on peut mieux comprendre le discours d'Eliphaz. Donc, Eliphaz de Théman prit la parole et dit: si on t'adresse la parole, supporteras-tu, mais qui pourrait garder le silence? Vous voyez, ce qui était bien, c'était au chapitre 2, c'est que les amis de Job sont venus et, par respect pour la souffrance de Job, ils ont gardé le silence. Et ce silence a eu un fruit, c'est que Job enfin s'est mis à parler et à dire ce qu'il avait sur le cœur. Et je crois qu'il est bon de garder le silence et de prier pour des gens et de ne pas leur donner un discours tout fait, comme on est parfois tenté de le faire sur Dieu. Et le problème d'Eliphaz, c'est qu'il va quand même parler. Et il va croire, mais qui pourrait garder le silence? Il va croire qu'il est de son devoir de défendre Dieu par des discours très humains, où il utilise sa propre sagesse, au lieu de prendre l'inspiration de l'Esprit-Saint, qui ne se trouve que dans le respect, le silence et la prière. Et dans des rares cas, effectivement, quand on sent une motion de l'esprit qui nous dit que le temps est mûr, alors on peut parler. Mais là, ce n'est pas ce que fait Eliphaz. Eliphaz veut défendre son Dieu avec sa propre raison, plein de lui-même. D'ailleurs, il n'a pas beaucoup de tact parce qu'il va dire « le supporteras-tu ? » Il dit ça à Job, sachant bien que son discours, même si intellectuellement il paraît juste, il ne va pas aider beaucoup son ami Job. Et chez Dieu, ce qui est important, c'est que ce qui doit primer, c'est l'amour du prochain avant le discours, c'est la charité, comme dit Paul en 1 Corinthiens 13, quand bien même j'aurai toute la sagesse du monde et je parlerai toutes les langues du monde, si je n'ai la charité, je ne suis rien. C'est la charité qui doit primer. Et parfois il vaut mieux ne pas dire des choses sages, mais se taire si c'est pour une plus grande charité. Eliphaz veut dire d'ailleurs, me semble-t-il, l'orfèvre ou dieu de l'or est Théman, c'est heureux. Nous avons Eliphaz qui effectivement lui va très bien, hein, ses personnages sont assez ciblés, et Eliphaz c'est celui qui, pour qui tout va bien dans la vie, alors effectivement quand on va bien, on ne comprend pas pourquoi ceux qui vont mal doutent. Et il faut toujours, à l'image du Christ, savoir s'incarner dans la vie des autres, c'est comme ça que notre discours va vraiment avoir un impact dans leur cœur, parce que ce discours sera incarné, ce que ne fait pas Théman. Alors Théman continue: vois, tu faisais la leçon à beaucoup de gens. Tu rendais vigueur aux mains débiles, tes propos redressaient l'homme qui chancelle, fortifiaient les genoux qui ploient, et maintenant ton tour venu, tu perds patience, atteins toi-même, te voilà tout bouleversé. Eliphaz ne comprend pas pourquoi Job, qui était si pieux, on le voit dans le chapitre, je crois que c'est le chapitre 1, effectivement, où il faisait des sacrifices pour ses fils, de peur qu'ils aient commis le péché dans leur festin. Donc c'était quelqu'un de très pieux, très centré sur la prière, Job. C'est bien pour ça que Satan veut absolument le mettre à l'épreuve, pour montrer à Dieu que l'intégrité de Job n'est qu'intéressée. Ce qui, vous verrez à la fin du livre, n'est pas le cas. Et Eliphaz, donc, ne comprend pas comment un homme si pieux, même s'il y a de grandes difficultés, chute. Le problème d'Eliphaz, c'est que c'est quelqu'un comme son nom l'indique, hein, l'or, etc., c'est quelqu'un qui est centré sur les apparences. Effectivement, en apparence, si on se base sur la tête, la raison et le monde visible, on pourrait dire, mais comment ça se fait qu'une telle personne qui avait l'air si forte, tout d'un coup, s'effondre? Notons que ce n'est pas très gentil de sa part de faire la leçon à Job en ces moments-là. Donc, de nouveau, hein, la charité doit primer sur toute autre considération. Et c'est bien là le problème, parce que Eliphaz, il lui manque une chose, c'est l'amour. Et Jésus lui-même va montrer que Dieu est amour, et s'il est amour, il ne fait pas toujours des choses qui semblent logiques, et que Dieu aime au-delà de toute raison. Et Job, justement, si on creuse, si on va au-delà des apparences, on peut se rendre compte que dans la souffrance, il y a des attitudes qu'il faut comprendre et qu'il ne faut pas juger. Il faut, à l'inverse d'Eliphaz, savoir toujours non pas regarder à la surface de la raison et de l'intelligence, mais à la profondeur du cœur et de l'amour. Alors continuons. Alors il continue, il dit, ta piété ne t'inspire-t-elle pas confiance? Ta vie intègre n'est-elle pas ton assurance? Souviens-toi, quel est l'innocent qui a péri? Où donc as-tu vu des justes exterminés? C'est tout le problème d'une certaine philosophie, si j'ose dire, de l'Ancien Testament qui s'exprime à travers ces discours du livre de Job. D'ailleurs, en partie, pourquoi le livre de Job a été écrit, et dans les psaumes, et dans les livres de Samuel. Dans l'Ancien Testament, très souvent, on pensait que si vous aviez une vie juste, vous aviez une vie heureuse, puisque ce n'est que très tard, surtout à partir du livre de Daniel, qui est écrit environ vers le 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, que les Juifs, que l'Ancien Testament commence à entrevoir la possibilité d'une vie après la mort, et donc d'une rétribution qui va au-delà. Le problème d'Eliphaz, c'est que lui voit cette philosophie, donc très ancienne dans l'Ancien Testament, et très ancrée, que si tu fais du bien, tu es récompensé, si tu fais du mal, tu es puni. Mais les faits, nous-mêmes nous voyons tous les jours, démentent cette philosophie simpliste. Et il faut aller au-delà, c'est ce que nous a appris le Christ et tout le Nouveau Testament. Ta piété ne t'inspire-t-elle pas confiance? Et ta vie intègre n'est-elle pas ton assurance? L'innocent, dis-moi quel innocent a péri. Entre parenthèses, vous avez le Christ qui montre un démenti, qui apporte un démenti à cette phrase. Où donc a-t-on vu des justes exterminés? Le Christ juste par excellence est mort. Et avec Jésus, on voit qu'il faut aller plus loin. Dieu ne nous demande pas une vie bien pépère où il faut j'ai pas volé, j'ai pas menti, j'ai pas ceci, ce qui est déjà bien. C'est un petit peu, je crois, c'est Marc chapitre 10, le riche qui vient voir Jésus et il dit qu'il a bien fait tous les 10 commandements, et quand Jésus lui dit de tout quitter pour le suivre, il s'en va tout triste car il avait de grands biens. Jésus, avec le Nouveau Testament, nous montre qu'il faut aller au-delà des apparences, qu'il faut travailler en profondeur. Et pour toucher les cœurs, le monde invisible des cœurs, il faut beaucoup prier, beaucoup aimer, quelles que soient les circonstances. Ça veut dire aimer au-delà du politiquement correct. Et cela, seul Dieu peut nous le donner. Et c'est pour ça que, avec Jésus et sa vie, nous voyons que l'innocent, la mort même de l'innocent, peut être la justification pour les autres, et notre propre souffrance, des fois, qui est causée par le fait que nous aimons des gens qui ne nous aiment pas, que nous bénissons ceux qui nous persécutent, que nous renonçons à la force ou à certaines choses qui nous paraissent légitimes pour, un travail de la grâce plus profond dans le cœur de ceux pour qui nous refusons d'exercer notre jugement, eh bien, toutes ces attitudes, ça équivaut un petit peu à l'innocent qui périt. Nous renonçons à ce qui peut paraître humainement juste pour aller plus loin, pour avoir la justice de Dieu, qui est celle qui accepte d'aimer au-delà de tout. Cela n'est possible qu'avec, bien sûr, la force de Jésus, la force de sa grâce, mais aimer au-delà, sachant que ce qui est le plus important, c'est l'action de la grâce. Et d'ailleurs, la vie après la mort, c'est ça. Il ne faut pas toujours attendre de la justice en ce monde, nous devons savoir que vraiment toute chose va trouver sa justice et son accomplissement au-delà. Autrement, nous serons toujours révoltés. Et c'est l'attitude que l'on doit adopter aussi maintenant où les églises se vident, où les gens tournent le dos en Europe, en tout cas, par rapport à l'église. Nous devons vraiment penser plus loin. Nous devons penser à cette grâce qui travaille, que tout est entre les mains de Dieu, même si les apparences semblent démentir notre espérance. Et c'est bien le problème d'Eliphaz, parce que lui ne va pas aller avec ce regard d'espérance, il ne s'arrête qu'aux apparences. Et sa philosophie, eh bien, Job montre qu'elle est fausse, puisque sa vie, et ce qui lui arrive, est un clair démenti à ce que Eliphaz dit. Et si nous en restons à cette philosophie d'Eliphaz, eh bien, nous risquons de perdre la foi ou d'être vite fatigués et révoltés contre Dieu. Et au lieu d'être un appui à la grâce de Dieu en aimant avec cette dimension christique du sacrifice de notre moi, de notre orgueil, etc., et d'aimer ceux qui nous persécutent, etc., ou d'aimer de renoncer à quelque chose qui nous paraît légitime, eh bien, si nous n'avons pas ce regard du Christ, si nous continuons à avoir ce regard d'Éliphaz, eh bien, très vite, nous deviendrons vindicatifs et nous aimerons très peu. À son image, donc, puisqu'il fait la leçon à Job dans des moments où il aurait mieux fait d'avoir des paroles de réconfort. Et il continue. Il dit, je parle d'expérience. Oui, tout va bien, comme son nom l'indique. Pour l'instant, il n'a pas eu d'expérience négative, donc il peut le dire. Mais le jour où lui arrivera la moindre difficulté, comme dans la parabole du semeur, en Marc, je crois, chapitre 4, où on voit que, faute de racines, dès qu'il y a des persécutions, eh bien, les racines dessèchent. Eh bien, lui, dès qu'il va avoir des choses qui ne correspondent pas à son raisonnement, qui ne peuvent s'expliquer que par l'amour de Dieu qui aime au-delà de toute mesure et qui voit le bien en l'homme et qui sait être patient, s'il n'a pas ce regard, eh bien alors on ne comprend plus et alors on finit par perdre la foi. Alors il dit, je parle d'expérience. Ceux qui labourent l'iniquité et sèment le malheur les moissonnent. Alors, c'est bien là le problème, c'est pas faux, évidemment. Si on se détache de Dieu et on fait le mal, à un moment ou à un autre, comme le dit le psaume 7, ça nous retombera sur la tête. Mais Dieu veut aller plus loin, et c'est ça que nous apporte le Nouveau Testament. C'est que Dieu ne désire pas la mort du pécheur, ce que dit déjà le livre d'Ézéchiel. Et certes, s'il y en a qui sèment l'iniquité et récoltent le malheur, on ne doit pas s'en satisfaire. Ça doit être pour nous, et comme le montre bien le prophète Jérémie, et comme le montrent bien les prophètes, nous devons être à l'affût, c'est dans Isaïe 21 aussi, du moment où l'homme va chuter par ses propres péchés, non pas pour l'enfoncer et dire bah, « c'est bien fait pour toi », ce que semble dire Eliphaz, mais pour au contraire le relever par notre prière et par notre témoignage d'amour, éventuellement même en parole, si l'occasion s'y prête. Donc nous ne devons pas voir le malheur de nos frères comme une punition, mais comme une occasion de tendre la main. C'est bien ce qu'a fait le Christ avec l'humanité, car en s'incarnant, il n'a pas puni, mais il a tendu la main. C'est tout le sens aussi christique et allégorique de la parabole du bon samaritain, où on peut aussi voir ce Jésus en la personne du samaritain, Jésus qui soigne l'humanité blessée et qui ne l'enfonce pas, et n'a pas un regard vindicateur et puis plein de jugement. Alors il continue, sous la laine de Dieu, donc ceux qui font le mal, ils périssent au souffle de sa colère, ils sont anéantis. Les rugissements du lion, les cris du fauve, comme les crocs des lionceaux sont brisés. Le lion périt faute de proie, et les petits de la lionne se dispersent. Voyez, continue. Et effectivement, il se réjouit du malheur qui arrive aux méchants, parce qu'il dit c'est bien fait pour eux. Il en reste là. Mais nous, le Nouveau Testament nous montre qu'il faut aller plus loin, que le malheur d'abord n'arrive pas qu'à ceux qui sont justes, que ceux qui sont injustes. Donc il ne faut pas juger et dire que c'est bien fait. C'est un petit peu toute la philosophie malheureusement orientale du karma, où finalement quand on voit quelqu'un de malheureux, de pauvre, c'est qu'il l'a mérité même dans une vie antérieure. On est là vraiment un petit peu poussé dans l'absolu le raisonnement d'Éliphaz. Mais Jésus nous apprend à penser différemment, comme je viens de le dire. Il ne faut pas se réjouir du lion qui périt faute de proie, etc. Mais il faut bien au contraire avoir cette main tendue et aimer même les pécheurs, et surtout les pécheurs, comme le Christ le montre avec la brebis perdue qu'il va rechercher. Donc il faut, quand il ne faut pas souhaiter la mort du pécheur ou son écrasement, mais bien au contraire qu'il vive et qu'il soit béni de Dieu pour qu'il se tourne vers lui. Et s'il lui arrive une épreuve, eh bien il faut prier et il faut agir pour que cette épreuve se tourne en grâce pour lui et qu'il se tourne vers Dieu. C'est effectivement tout le sens des prophètes qui ont averti Israël et qui ne cessent de dire à Israël que le malheur va arriver, mais ce n'est pas pour dire c'est bien fait, mais c'est pour que Israël sache se retourner vers son Dieu quand le malheur arrivera. C'est ça que nous devons avoir. Nous devons être comme des guetteurs, pleins de prières et d'amour pour ces pécheurs qui chutent et non pas se réjouir de leur chute. Alors, il continue et il dit j'ai reçu une révélation furtive, mon oreille en a perçu le murmure, à l'heure où les rêves agitent confusément l'esprit, quand une torpeur envahit les humains, un frisson d'épouvante me saisit et remplit tous mes os d'effroi. Un souffle glissa sur ma face, hérissa le poil de ma chair. Quelqu'un se dressa. Je ne reconnus pas son visage, mais l'image restait devant mes yeux. Un silence, puis une voix se fit entendre. Ici, nous avons un avertissement. Il faut bien se garder des révélations dites privées si elles ne confirment pas la révélation biblique. C'est déjà la première chose. Il ne faut pas commencer à bâtir sa foi sur une impression, une interprétation plus ou moins farfelue. Il faut vraiment que la foi, d'abord, ce que nous croyons, soit ancré dans l'enseignement de l'Église, qui a 2000 ans d'interprétation. C'est quand même autre chose que notre propre interprétation personnelle. Autrement, nous sombrons dans les sectes, comme les témoins de Jéhovah, qui se permettent de dire, avec moins de 200 ans d'histoire, que tout le reste de la chrétienté s'est trompé. Mais quelle présomption! Et puis, nous-mêmes, nous devons, avec notre lecture de la parole, lire la parole, et toute la parole, et souvent la parole. Et alors, si nous avons, un moment ou un autre, une espèce d'intuition, mais qui n'est pas confirmée par notre lecture régulière de la parole, gardons-nous bien de faire de cette intuition un absolu. Et c'est bien le problème aussi de ce qui est arrivé avec l'islam. Parce que quand vous voyez la Bible, c'est écrit sur 1500 ans à peu près par différents écrivains, et vous avez tout d'un coup quelqu'un qui se permet de dire « Ah ben tiens, j'ai eu une révélation », et puis sur quelques années de sa vie, commence à détruire, à casser toute la révélation biblique en disant qu'elle se trompe. Quand on réfléchit, c'est quand même bien présomptueux aussi. Sachant que, je n'ai pas pu m'empêcher, mais vous avez Eliphaz qui doute, il ne reconnaît pas l'image. Il dit « je suis un peu dans une torpeur », il est un petit peu dans un état second. Eh bien, il faut savoir que Mahomet, c'est exactement ce qui lui est arrivé dans sa caverne. Il n'était même pas sûr que c'était même pas le diable qui lui parlait. Et il faut savoir qu'il en a même eu des cauchemars et des maux de ventre. Il faut savoir que beaucoup de révélations de Mahomet sont arrivées alors qu'il avait comme des crises d'épilepsie. Donc je ne peux pas m'empêcher aussi de penser à ça. Donc il faut être très prudent, il faut vraiment que notre foi se base sur une lecture de la Bible fréquente et le plus possible de passages bibliques, et ancrée aussi dans l'enseignement de l'Église. Autrement, nous arrivons à des choses farfelues. Et regardez ce que va faire Eliphaz. Il va dire quelque chose effectivement d'intellectuellement très correct. Et ce que dit le Coran d'ailleurs, parce que le Coran fait primer la raison sur le cœur. Et Eliphaz va faire exactement la même chose. Eliphaz va dire un mortel, donc un silence, puis une voix se fit entendre. Un mortel est-il juste devant Dieu? En face de son auteur, un homme serait-il pur? À ses serviteurs même, Dieu ne fait pas confiance, et il convainc ses anges d'égarement. Alors, c'est montrer vraiment le Dieu qui n'a confiance en personne et on n'est sûr de rien avec ce Dieu-là. Et c'est effectivement la vision d'Allah. On ne sait pas vraiment ce que Dieu pense, on ne sait pas si on sera sauvé. Et Dieu est tellement loin de nous que nous ne savons rien de lui. Et c'est ce que nous dit Eliphaz. Et la révélation biblique, qui trouve son apogée dans l'incarnation, nous montre qu'au contraire, si Dieu est grand, c'est bien sûr par sa nature, mais surtout par son amour. Et donc, l'amour veut se faire connaître de l'autre. Et c'est pour ça que je disais que, au contraire d'Eliphaz, il faut avoir beaucoup d'amour, se mettre à la portée des autres, et voir que la grandeur de Dieu, c'est d'aimer au-delà des apparences, et de voir dans celui qui peut même lui cracher dessus, qu'il y a en lui une soif de Dieu, et qu'avec du travail et de l'amour, cette personne peut changer. Et c'est le regard que nous sommes appelés à avoir. Et d'ailleurs, Eliphaz s'enfonce dans son discours. Que dire des autres de ces maisons d'argile, c'est-à-dire l'être humain, posées elles-mêmes sur la poussière, on les écrase comme une mythe. Un jour suffit à les pulvériser, à jamais ils disparaissent car nul ne les ramène. Leur piquet de tente est arraché et ils meurent dénués de sagesse. Alors, effectivement, ce n'est pas faux, l'être humain est fragile. Devant Dieu, nous ne sommes pas grand-chose. Mais vous voyez, d'insister tellement sur la grandeur de Dieu et sur notre fragilité, ce que fait beaucoup le Coran, c'est nous plonger dans un état d'incertitude par rapport à ce qu'est Dieu, et alors que la révélation biblique, qui trouve son couronnement dans les prophètes, mais surtout dans la vie du Christ, nous montre que Dieu, sa grandeur est dans l'amour, et que Dieu, bien sûr, est beaucoup plus grand que nous et est fragile, mais de cette fragilité, Dieu n'en profite pas, mais au contraire, il nous prend dans sa main, comme dit le psaume 9, il prend la souffrance dans sa main, il se fait l'un de nous pour nous élever. Comme dit saint Irénée, Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu. Et effectivement, c'est dans la Bible, la grandeur de Dieu se manifeste dans sa capacité d'aimer, C'est ce qu'il dit ici dans, et c'est ce qu'il dit aussi Dieu dans le livre d'Osée. Vais-je t'écraser, Ephraïm? Non, car je ne suis pas homme, mais je suis Dieu. Le Dieu de la Bible, contrairement au Dieu du Coran, et à toutes les autres philosophies qui se prétendent parfois même des religions, montre que Dieu, sur la croix, eh bien, sa grandeur, c'est d'aimer au-delà de tout, sachant que cet amour peut transformer les gens. Et nous sommes appelés, nous chrétiens, comme dit Paul dans l'Épître aux Colossiens, à prendre le relais de cet amour, à compléter dans notre chair ce qu'il manque au Christ, c'est-à-dire nous faire relais de cet amour par notre prière, notre amour face à des gens qui semblent, qu'on pourrait cataloguer comme perdus, ou par rapport à nos ennemis, eh bien, sachons adopter cette attitude de Dieu, prier pour nos ennemis, comme ça nous sommes des portes ouvertes à la grâce de Dieu, et que cette prière soit accompagnée de notre et authentifiée par notre amour pour eux. Eh bien, là, nous manifesterons pleinement la grandeur de Dieu, et au contraire d'Éliphaz, nous serons vraiment des disciples du Christ. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans ce texte de Job. Et je crois que cette façon de voir est très précieuse si on veut comprendre le livre de Job. Voilà. Maintenant, je vous propose une petite prière, si vous le voulez bien. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix. Et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire votre cette prière. D'abord, Seigneur, merci parce que tu es un Dieu d'amour. Tu es le Père de Jésus, Jésus qui nous a montré à quel point tu nous aimais. Merci, Seigneur, de manifester ta grandeur, disons, à l'immensité de ton amour. Et Seigneur, apprends-nous à l'inverse d'Éliphaz, à être des disciples du Christ, à faire primer la charité sur toute autre considération, et que cela s'exprime par un regard d'espérance et de foi, qui se traduisent par la prière et l'amour, même pour des gens qui nous paraissent si hostiles ou parfois qui nous tapent sur le système. Et que cet amour, Seigneur, nous aide à vraiment aimer en pensant que tout geste de charité qui va au-delà de la sagesse humaine ou de nos droits humains, et qui implique un renoncement à ce qui pourrait nous paraître légitime, eh bien que ces gestes d'amour qui sont dignes de la croix, en ce sens qu'ils représentent des sacrifices, eh bien que ces gestes d'amour vont porter du fruit à long terme, parce que tout simplement, ils sont des appuis, des accompagnateurs de la grâce de Dieu, qui, elle, travaille toujours dans tous les cœurs, quels qu'ils soient, aussi mauvais soient-ils, parce que ta grâce, Seigneur, à l'image du Christ, c'est celle qui aime jusqu'à la croix. Amen. J'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes. Fin de l'enregistrement.